France Culture, il est 18h. Le journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La biodiversité est en danger, il est plus que temps de se mobiliser pour la sauver. C'est le message que veut faire passer le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. Éclairage dans un instant de Véronique Rebérotte. Le gouvernement lance la mobilisation pour l'emploi et l'environnement. Et l'exécutif change de méthode, il veut travailler avec les élus locaux, les organisations syndicales et patronales et les associations. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale va entamer une tournée des principales capitales européennes. Fayez al-Sarraj cherche des soutiens face au maréchal Haftar. Sensible à l'indignation internationale, le sultan du Brunei recule. La peine de mort ne sera pas appliquée en cas d'homosexualité. Ils s'appellent Europe, Mona et Loza. Trois jeunes gypaètes barbus ont été réintroduits aujourd'hui dans les Cévennes. Ces jeunes vautours, élevés en captivité en Espagne, sont équipés de GPS et ils seront nourris et surveillés régulièrement jusqu'en septembre, le temps de s'acclimater à leur nouvel environnement. Voilà un exemple concret d'effort pour sauvegarder les espèces menacées, le jour même où un rapport d'experts internationaux met en évidence l'ampleur du déclin de la biodiversité. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité. Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
Ce déclin n'est pas inéluctable, mais il faut agir vite, très vite, et les scientifiques lancent un appel à la mobilisation.
Oui, appel au sursaut sans tarder. On peut comparer cela à l'urgence climatique, effondrement du vivant avec, vous l'avez dit, 1 million d'espèces menacées d'extinction à brève échéance à cause des activités humaines. Et cela ne va pas s'arranger si les hommes, nous disent les chercheurs dans un rapport au Roland Altermondialis, si les hommes n'arrêtent pas de penser à la richesse du monde uniquement en termes de PIB. Nous sommes en train d'éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé, la qualité de vie dans le monde entier, dit le rapport sur la biodiversité. C'est le constat fait par Anne Larigaudry. Elle a participé à la rédaction de ce rapport.
La planète est maintenant entièrement sous la domination de l'activité humaine. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction sur les 8 millions de plantes et d'animaux que compte la planète. On connaît les conséquences, on sait qu'elles menacent de plus en plus la capacité de l'espèce humaine à pouvoir avoir une vie de qualité, juste et saine sur cette planète. Et puis, quand les citoyens sont informés, quand ils veulent faire quelque chose, ils arrivent quand même à faire progresser une cause, même s'ils ne sont pas forcément encouragés par ceux qui sont au-dessus et qui les gouvernent. Il faut vraiment aussi que les gouvernements arrivent à être plus courageux, parce que c'est souvent au niveau de la population qu'en fait que les choses commencent vraiment à bouger.
Voilà les experts mondiaux sur la biodiversité qui ne demandent qu'à voir le sujet empoigné par des citoyens informés qui demanderaient donc des comptes à leur gouvernement. Car la biodiversité, ce n'est pas que pour faire joli, explique Christophe Houbel, c'est le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.
C'est pas seulement des espèces qui disparaissent, c'est triste des espèces qui disparaissent, mais derrière ces espèces qui disparaissent, c'est le cadre de vie des humains, c'est l'avenir des sociétés humaines, c'est ce qu'on mange, c'est la qualité de notre eau, c'est la régulation du climat, c'est des tas de choses qui vont pas bien parce que les écosystèmes et la disparition des espèces, ça traduit ça, ne vont pas bien. Le grand intérêt, c'est d'abord que c'est un travail exhaustif de plein de scientifiques, mais qui a été endossé, si je puis dire, par les gouvernements. Donc on a là la base de la discussion maintenant pour que, dans la séquence qui s'ouvre jusqu'en 2020 en Chine, les gouvernements puissent répondre et nous dire comment ils vont s'en saisir.
Voilà, comme pour le climat, toutes les solutions sont là, insistent les experts, notamment ces solutions qui consistent à aller vers une agriculture moins intensive dans le monde ou supprimer aussi les aides publiques dites perverses, c'est ce que dit le rapport, qui mène à la destruction de la biodiversité.
Véronique Rebérotte et les ministres de l'Environnement du G7 réunis à Metz viennent d'adopter une charte pour la protection de la biodiversité. Les pays signataires s'engagent à mener des actions concrètes pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, un texte non contraignant, aboutissement de 2 jours de discussion et avec un paragraphe spécifique pour présenter la position américaine. Il y a donc encore un peu de travail en perspective. Environnement et emploi, 2 gros dossiers abordés ce matin à Matignon. Édouard Philippe recevait avec une partie du gouvernement des associations d'élus, des syndicats et des organisations patronales pour lancer la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions écologiques et numériques. Et le Premier ministre a voulu montrer que la promesse d'Emmanuel Macron d'écouter davantage les corps intermédiaires était tenue. Édouard Philippe.
C'est une façon de régler des problèmes pratiques et concrets qui se posent objectivement. Et j'observe que tous les acteurs qui étaient là ce matin ont parfaitement conscience que seul, personne n'est capable de les régler. Et donc, territoire par territoire, il faut qu'on fasse de la haute couture d'une certaine façon, en tout cas du sur-mesure, pour être certain que les solutions concrètes sont bien apportées et que les changements se voient. Donc il ne s'agit pas de redéfinir des cadres juridiques, il ne s'agit pas de redéfinir des circuits financiers, il s'agit de trouver, avec tous ceux que ça intéresse, les solutions pratiques pour que ça marche mieux. Pour favoriser le développement de l'apprentissage à Angoulême, c'est pas à Paris qu'on va prendre des décisions et ça ne relève pas que du gouvernement. Pour faire en sorte, c'est un des thèmes que nous avons évoqué, qu'on réduise l'utilisation des plastiques à Dijon, on va pas prendre la décision à Paris. Donc je crois que cette nouvelle méthode est précieuse, utile, et en tout cas nous sommes déterminés à la faire avancer rapidement, avec en juin un prochain rendez-vous qui interviendra après que le travail territorial aura commencé, et puis en septembre, l'agenda de solutions définitives qui devra se traduire par des engagements précis, territorialisés et assumés par l'ensemble des acteurs.
Un changement de méthode annoncé avec assurance et conviction par le Premier ministre, mais syndicats, patronats et associations sont partagés, Rosalie Lafarge.
Oui, à la CFDT, on veut y croire. Pour son patron Laurent Berger, les choses vont plutôt dans le bon sens.
La porte est entrouverte, il faut mettre le pied dans la porte. Donc on jugera sur pièce, mais objectivement, on peut le dire, les thèmes qui sont ouverts sont des bons sujets. Il en manque, on s'investira aussi pour que l'écologie, la justice sociale et la lutte contre la grande pauvreté soient un peu plus présentes.
Mais pour le numéro 1 du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, si elle veut porter ses fruits, cette nouvelle méthode doit se concrétiser rapidement.
C'était une grand-messe, mais c'est utile si et seulement si ça se décline sur des réunions opérationnelles au plus près du terrain.
Et c'est l'idée. Après ce lancement parisien et avant un nouveau rendez-vous en juin, la concertation doit se faire localement. Il en faudrait un peu plus pour convaincre Michel Boga de Force Ouvrière.
Moi, je suis assez surpris. Moi, je ne vois pas de changement de méthode. En fait, on nous écoute, poliment, longuement d'ailleurs. Mais quand j'entends la ministre du Travail venir me parler de nouvelles concertations, enfin en tout cas qu'on allait reparler des freins à l'apprentissage alors qu'on l'a fait il y a à peine 2 ans, je me pose des questions si soit on nous écoute, mais je ne suis pas sûr qu'on nous entende.
Ça pourrait coûter, le gouvernement écoute, abonde l'écologiste Pierre Canet pour le WWF France, mais ça ne suffit plus.
À quand les engagements, à quand les décisions, alors que cela fait près de 2 ans que finalement l'ensemble des organisations ont mis sur la table des solutions, ont mis sur la table des mesures qui appellent donc maintenant des décisions de la part du gouvernement.
Mais pour les décisions, le Premier ministre, on l'entendait tout à l'heure, a fixé son calendrier. L'agenda des solutions, ce sera pour septembre.
Rosalie Lafarge, alors les méthodes du gouvernement ont-elles vraiment changé? Au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer réunissait aujourd'hui l'ensemble des rectrices et des recteurs. Objectif, lancer la mise en œuvre des mesures annoncées par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse du 25 avril. Le président a expliqué alors qu'il n'y aurait plus de fermeture d'école sans l'accord du maire, que les classes de grande section de maternelle en éducation prioritaire serait dédoublée et que les classes de grande section CP et CE1 hors éducation prioritaire seraient limitées à 24 élèves d'ici la fin du quinquennat. Des mesures ambitieuses, reconnaît Agnès Lebrun, vice-présidente de l'Association des maires de France, mais elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu plus de concertation.
De décréter « on ne ferme plus l'école », ça a l'air comme ça d'être très bienvenu, mais on voit bien que ça ne peut pas se réaliser comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faudrait examiner notamment les élèves surnuméraires, parce qu'on nous dit il n'y aura pas plus de tant d'élèves par classe. Et celui d'après, le 25e, le 26e, on en fait quoi? Je ne sais pas si c'est une méconnaissance, une ignorance ou une volonté de ne pas tenir compte de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais dans tous les cas, nous aspirons vraiment de nos voeux à ce que un dialogue vraiment constructif, mais à égalité, où nous puissions nous faire part de ce que nous pouvons, de ce que nous souhaitons, eh bien, c'est comme ça qu'on devrait avancer, et on pourrait avancer avec le ministère de l'Éducation nationale, qui, bien entendu, n'a pas que de mauvaises idées. Mais en l'occurrence, on est vraiment sur... sur des annonces qui sont très très verticales et qui omettent de prendre en considération la réalité du terrain.
Agnès Lebrun, vice-présidente de l'AMF, répondait à Hakim Kasmi. En 2008 et 2009, 35 salariés de France Télécom s'étaient donné la mort. Le procès d'anciens dirigeants de l'entreprise, dont l'ancien PDG Didier Lombard, s'est ouvert au tribunal de grande instance de Paris. C'est la première fois qu'un grand groupe français est jugé pour harcèlement moral à grande échelle. Et des militants syndicaux, anciens salariés et associations de victimes se sont rassemblés devant le tribunal pour demander que justice soit faite. Vous êtes sur place, Antoine Marette. L'audience a démarré dans une salle comble avec l'appel des prévenus et des parties civiles.
8 prévenus face à une centaine de parties civiles. 7 prévenus sont des personnes physiques, 5 hommes et 2 femmes, costumes pour les uns, tailleurs pour les autres. Le premier d'entre eux est l'ancien patron de France Télécom, Didier Lombard, 77 ans, décline son identité. Il précise d'une voix claire qu'il est retraité depuis 2011. La présidente appelle une à une les parties civiles. 167 personnes physiques se constituent parties civiles. Toutes ne sont pas présentes pour ce premier jour d'audience. Beaucoup sont représentées par leur avocat. Parmi les parties civiles qui s'avancent à la barre, les quatre enfants et la femme de Rémi. Ce fonctionnaire de France Télécom s'est immolé par le feu en 2011 sur le parking d'un local de l'entreprise. Il avait 56 ans. La présidente fait preuve de pédagogie dans la salle d'audience, bien remplie. Elle explique par exemple aux témoins qu'ils vont d'abord devoir faire une déclaration spontanée durant laquelle aucune question ne leur sera posée. Durant ce procès qui doit durer plus de 2 mois, une psychologue sera présente dans le tribunal pour venir en aide aux témoins et aux parties civiles qui le souhaitent.
Le procès doit durer jusqu'au 12 juillet. Le travail, source d'épanouissement ou de souffrance, la qualité des conditions de travail varie beaucoup d'un pays européen à l'autre. L'Organisation internationale du travail a mené une étude comparative dans une quarantaine de pays. Et selon l'OIT, un tiers des Européens se plaignent d'un rythme de travail effréné. La France n'échappe pas à ce constat. Elle décroche même dans plusieurs indicateurs. Jérémy Lanche a rencontré les auteurs du rapport à Genève.
27% des gens ont un emploi qui, du point de vue de la qualité du travail, est positif, sauf qu'ils travaillent de longues heures et notamment des heures après les heures au bureau.
Agnès Parent-Thirion travaille à la fondation Eurofound qui a publié le rapport avec l'OIT. Pour elle, tout n'est pas jeté dans le monde du travail en France, mais c'est un fait, les conditions d'emploi se dégradent.
Il y a un groupe, et c'est là peut-être une des particularités les plus frappantes pour la France, de 27% des emplois qui sont caractérisés par des risques psychosociaux élevés. Des gens qui travaillent avec beaucoup de demandes émotionnelles, avec des relations sur le lieu de travail qui sont tendues. Et puis, il y a quand même quelque chose qui nous a beaucoup surpris, mais on le voit dans d'autres enquêtes. Il y a 21% des gens qui ont un emploi qui est caractérisé par une exposition à des risques physiques élevés. Donc quand on nous dit les robots sont là, etc., ça n'empêche pas que le travail reste physique.
Sur ce point, en Europe, il n'y a que la Roumanie qui fait pire que la France. D'ailleurs, le seul pays où les risques physiques continuent d'augmenter. Le secteur de la construction est particulièrement concerné. Mais pas que. Pour Agnès Parent-Thirion, cela s'explique aussi par les politiques publiques qui ont été menées ces dernières années en France et le choix de donner la priorité à la réduction du chômage au détriment parfois de l'amélioration des conditions d'exercice du travail.
Vainqueur des élections législatives espagnoles il y a 8 jours, le socialiste Pedro Sanchez cherche à former une coalition gouvernementale. Le chef du gouvernement sortant ne dispose pas de majorité absolue, il commence donc à consulter ses rivaux. Il a reçu cet après-midi Pedro Casado, le leader du Parti populaire de droite. Pedro Sanchez ne compte pas sur lui pour voter son investiture, mais il espère que la droite baissera le ton de ses critiques après sa sévère défaite électorale. On retrouve notre correspondant à Madrid, Mathieu de Taillac.
Sur le perron du palais de la Moncloa, le siège du chef du gouvernement espagnol, ils étaient au sourire. Le socialiste Pedro Sanchez accueillait son rival, Pablo Casado, le chef du Parti populaire, la grande formation de la droite espagnole. On aurait presque pu croire qu'ils étaient disposés à s'entendre, 8 jours après les élections législatives, marquées par une grande polarisation entre la gauche et la droite. Après l'avoir traité de félon, après avoir dit que c'était un président du gouvernement illégitime, voilà que Casado serre la main de Sanchez et se dit prêt à ouvrir un dialogue sur la question qu'il a le plus utilisée contre lui, l'indépendantisme catalan. Le virage du PP est impressionnant, il fait suite aux très mauvais résultats électoraux de sa formation, ce sont les mots prononcés par Casado. Il a bien fallu une conférence de presse de Casado pour que le dirigeant de la droite précise tout de même qu'il voterait contre l'investiture du socialiste, mais que les centristes de Ciudadanos peuvent parfaitement s'abstenir pour lui laisser la voie libre. Une attaque voilée contre Ciudadanos qui dispute au PP son électorat et son rôle de premier opposant. Le dirigeant des centristes, Albert Rivera, sera reçu demain matin par Pedro Sanchez, puis viendra le tour de Pablo Iglesias pour Podemos. Le leader de la gauche radicale rêve de placer ses hommes au gouvernement.
Et l'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, va pouvoir se présenter aux élections européennes sur une liste espagnole. Exilé en Belgique et poursuivi en Espagne depuis l'échec de la tentative de sécession de 2017, Carles Puigdemont vient pourtant d'obtenir l'aval de la commission électorale espagnole pour se présenter aux élections du 26 mai. Pas de trêve en Libye à l'occasion du Ramadan. Bien au contraire, le maréchal Khalifa Haftar a appelé ses troupes à infliger une leçon plus dure encore aux forces du gouvernement d'Union nationale. Puisque les combats se poursuivent autour de Tripoli, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, va chercher des soutiens. Il entamera demain une tournée en Europe et se rendra à Rome, Berlin et Paris, Omar Ouaman.
Après avoir stoppé l'avancée des forces de l'homme fort de l'est du pays, le maréchal Haftar, Fayez Sarraj va désormais s'atteler à une tâche beaucoup plus ardue, convaincre ces trois pays européens d'adopter une position commune face à ce qu'il qualifie d'agression. En commençant sa tournée par Rome, le premier ministre du gouvernement d'Union nationale reconnu par les Nations unies se déplace en terrain conquis. Le chef du gouvernement italien a toujours soutenu le processus onusien afin de parvenir à l'organisation d'un scrutin présidentiel. Mais Giuseppe Conte doit également faire avec le principe de réalité. En contrôlant la plus grande partie de la Libye, le maréchal Haftar est devenu en quelques années incontournable. Difficile pour l'Italie voisine des côtes libyennes de l'ignorer. Après son étape italienne, Fayez Sarraj s'envolera pour Berlin, où il sera reçu par Angela Merkel. Mais le moment de vérité aura lieu mercredi matin à Paris. Le Premier ministre libyen soupçonne Emmanuel Macron de jouer double jeu, officiellement de le soutenir et en sous-main d'encourager le maréchal Haftar à prendre le pouvoir afin de mettre fin à l'anarchie qui règne en Libye. À défaut de pouvoir lever l'ambiguïté, Fayez Sarraj va s'efforcer à Paris d'arracher une condamnation claire et ferme de l'offensive du maréchal Haftar.
Et Fayez Al-Sarraj pourrait également se rendre en Grande-Bretagne. Après trois jours d'affrontements entre forces israéliennes et groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza, un accord de cessez-le-feu a été conclu cette nuit. L'annonce en a été faite par le Hamas. Trêve fragile car tous les ingrédients restent réunis pour un nouvel accès de violence. Le bilan de l'escalade de ce week-end est de 25 morts dans la bande de Gaza et 4 civils en Israël. L'Iran va reprendre une partie de ses activités nucléaires interrompues depuis la signature de l'accord de 2015 sur son programme atomique. L'information émane de l'agence de presse iranienne IRIB. Selon l'agence, la République islamique d'Iran réagit à la dénonciation de l'accord sur le nucléaire par les États-Unis et aux fausses promesses des pays européens de respecter leurs obligations. Le chef historique de la rébellion kurde, Abdullah Öcalan, a rencontré ses avocats. Cela peut paraître anodin, mais c'est la première fois depuis 2011. La rencontre a eu lieu début mai dans l'île prison d'Imralı, non loin d'Istanbul, où il est incarcéré depuis 1999 et purge une peine de prison à vie. Après des années d'intransigeance, le pouvoir turc semble faire un geste envers le mouvement politique kurde. Les explications d'Anne Handlauer à Istanbul.
La dernière fois qu'Abdullah Öcalan a rencontré ses avocats, en juillet 2011, le gouvernement turc était en train de jeter les bases d'un processus de paix avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le processus avait échoué et les combats avaient repris à l'été 2015, plus violents que jamais. En janvier dernier, après des années d'isolement, le chef du PKK a pu revoir son frère sur l'île prison d'Imralı. La visite récente de ses avocats confirme que l'État turc envisage d'utiliser à nouveau Abdullah Öcalan et son autorité sur les combattants kurdes. Mais dans quel but ? Deux pistes se dégagent dans le message du leader kurde transmis par ses avocats. Abdullah Öcalan y demande aux forces arabo-kurdes de Syrie, les FDS, de tenir compte, je cite, « des sensibilités de la Turquie ». Cette dernière menace de lancer d'autres offensives sur les combattants kurdes s'ils maintiennent leur présence le long de sa frontière. Au début du mois, le commandant des FDS avait reconnu l'existence d'un dialogue indirect, sans doute via les États-Unis, avec les autorités turques. En rompant l'isolement d'Abdullah Öcalan, la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan pose peut-être les jalons d'un nouveau processus politique, même s'il est encore bien trop tôt pour l'affirmer. Dans son message, Abdullah Öcalan demande aussi aux quelques 3000 prisonniers en grève de la faim dans le pays de ne pas mettre leur vie en danger, une grève de la faim justement initiée en réaction à l'isolement du leader kurde. Les autorités d'Ankara craignent qu'une série de morts en prison ne déclenche une nouvelle campagne d'attaque du PKK sur le sol turc.
Au Brunei, les homosexuels ne seront plus condamnés à mort par lapidation. L'indignation internationale a poussé le sultan de Brunei à revenir sur sa décision. Il ne renoncera pas à instaurer la charia dans son petit état, mais il promet de prolonger le moratoire sur les lapidations d'homosexuels ou de couples adultérins, Christian Chéneau.
Alors que débute le mois sacré de Ramadan, le sultan de Brunei fait machine arrière pour essayer de calmer les critiques. Sa décision d'instaurer la lapidation jusqu'à ce que mort s'en suive pour punir les homosexuels avait suscité l'indignation internationale. Certaines stars, comme l'acteur américain George Clooney ou le chanteur britannique Elton John, avaient lancé un appel à boycotter les palaces détenus par le sultan de Brunei dans le monde. Ce dernier a finalement décidé d'appliquer un moratoire sur la peine capitale pour les condamnations à mort en cas d'homosexualité ou d'adultère. Mais il n'a pas renoncé pour autant à l'instauration d'un nouveau code pénal qui prévoit entre autres l'amputation d'une main ou d'un pied pour les voleurs. Depuis 2014, des amendes ou des peines de prison ont également été introduites pour exhibitionnisme ou manquement à la prière du vendredi.
Le temps sera plus doux demain mardi, mais une dégradation arrivera par l'ouest. Il pleuvra sur la Bretagne à partir de la mi-journée. Les pluies deviendront continues en soirée du nord de l'Aquitaine à la Normandie. Ailleurs, l'impression de beau temps l'emportera. Les minimales seront comprises entre 0 et 11 degrés. Les maximales seront en hausse avec 14 à 23 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.